Et je voudrais partager avec vous ce matin quelque chose qu'on n'aborde pas très souvent, mais qui me semble extrêmement important. Ça me semble important parce que souvent, ce sont des choses qui créent des difficultés dans les églises. Et donc, il faut en parler clairement. Si on n'en parle pas, c'est comme ça que les difficultés se créent. Alors, vous allez comprendre un petit peu où je veux en venir. On va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. On va lire les 9 premiers versets. Matthieu, chapitre 15. Un texte qu'en principe nous connaissons pour la plupart. Il nous a dit ceci, voilà, ça s'affiche derrière moi. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 15. Il nous a dit ceci, « Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent. » Alors déjà, juste ça, c'est très important, c'est un petit détail, mais imaginez-vous un petit peu la scène. Jésus, à ce moment-là, se trouve en Galilée. Et là, il est dit que des scribes, des religieux, des pharisiens viennent trouver Jésus et ils arrivent de Jérusalem. Ils ont fait tout le trajet. Prenez une carte de l'époque et regardez un petit peu Jérusalem, la Galilée, vous allez voir que ça fait du chemin. Hein. Et pour ceux qui sont allés en Israël, on en fait partie, ouais, ça fait du chemin. Il n'y avait pas les trains, il n'y avait pas les bus. Voyez. Donc, ils ont fait un chemin particulier pour aller trouver Jésus. Et voilà la raison de pourquoi ils ont fait tout ce chemin. Ils arrivent donc auprès de Jésus et ils lui dirent, verset 2, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. » Voilà, alors c'est un passage qui est intéressant, important, je pense que vous le connaissez, vous l'avez lu plus d'une fois, mais je veux m'y arrêter ce matin parce qu'il met le doigt sur quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, sur des choses qui existent encore aujourd'hui, à savoir les traditions, les façons de fonctionner, les règles, les schémas qu'on a érigés ou qu'on essaye d'ériger en doctrine, vous voyez ? Et ici, c'est un petit peu le reproche que le Seigneur va faire à ces religieux. C'est des gens qui connaissent la loi sur le bout des doigts. Et Jésus va leur faire ce reproche. Vous érigez en doctrine des choses qui ne sont pas des commandements de Dieu. C'est-à-dire des choses qui, pour vous, sont importantes, sont même essentielles. Vous les avez érigées en doctrine alors que ce ne sont que des traditions et des commandements d'hommes. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Vous avez remarqué, ils ont fait tout ce chemin de Jérusalem, c'est pour ça que je l'ai dit en introduction, pour dire à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Vous voyez ? Et un petit peu plus bas, au verset 9, Jésus va dire ceci, « C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ils enseignaient des choses en disant, « Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse, alors que ça n'avait rien à voir avec ce que Dieu avait dit. » C'était des traditions purement humaines. Vous voyez ? Et je crois que c'est important de réaliser que nous avons dans nos églises, et je ne vais pas parler des autres ce matin, on va parler de nous, nous faisons partie d'une famille d'églises, les Assemblées de Dieu de France, qui ne sont pas les meilleures. C'est comme toutes les familles. Hein. Dans toutes les familles, il y a des qualités, il y a des défauts. Les familles spirituelles, c'est pareil. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est dans les Assemblées de Dieu qu'on est les meilleurs. Et heureusement, j'espère que personne ne pense à ça ce matin. Hein. On n'est pas les meilleurs. Hein. Voilà. Béni soit Dieu. Moi, personnellement, je suis né dans cette famille spirituelle-là. Je bénis le Seigneur et je veux aimer cette famille-là, même si je suis conscient qu'elle a des défauts. Mais c'est comme toutes les familles. Hein. Famille de chair ou famille spirituelle. Voyez. Et dans notre famille d'église, dans nos familles d'église, nous avons ce que nous appelons les vérités fondamentales des Assemblées de Dieu de France, c'est-à-dire la doctrine, c'est-à-dire ce que nous croyons. Je crois que c'est important de savoir ce que nous croyons, ce que nous confessons, voyez, ce que nous prêchons. crois que c'est important de le savoir. Hein. Quand on dit, tu crois en quoi ? C'est quoi que vous prêchez dans votre église ? Je crois que c'est important. Et dans nos églises, nous avons les vérités fondamentales des Assemblées de Dieu de France. Alors, ces vérités fondamentales, vous les trouvez dans le Pentecôte. Ceux qui sont abonnés au Pentecôte, vous regarderez, dans tous les numéros de Pentecôte, vous avez ces vérités fondamentales. Voyez ? Quand je suis allé à l'école biblique, à l'ITB à Bordeaux, avec Rosetta, une des premières choses qu'on nous a enseignées, c'est ça, les vérités fondamentales. Alors, on va les percer sous vos yeux, parce que je crois que c'est important de savoir, de rappeler ces choses, hein, de savoir qu'est-ce qu'on croit. Alors, voilà ce qu'on croit. Première vérité fondamentale, les Écritures constituent la parole inspirée de Dieu, l'infaillible règle de la foi et de la conduite de l'Assemblée en général et du chrétien en particulier. Ça, c'est ce que nous croyons. Alléluia. Albert en a parlé la dernière fois. Hein. L'Écriture seule. Voyez, et toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est une vérité que nous proclamons et que nous croyons. Et vous avez, on ne va pas les lire, vous avez tous les versets en dessous. Et encore, ce ne sont que 2-3 versets, mais il y en a bien plus que ça. Hein. Deuxième vérité fondamentale, nous croyons en l'unité du seul vrai Dieu et vivant qui est éternellement existant par lui-même. Je suis qui s'est révélé comme étant un en 3 personnes. Ça, c'est ce que nous croyons aussi. La Trinité, hein, même si ce n'est pas un mot qui est dans la Bible. Mais on voit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit plus d'une fois. Troisième vérité fondamentale, la chute de l'homme, créé pur et innocent, mais qui tomba dans le péché par transgression volontaire. Ça aussi, c'est ce que nous prêchons. C'est ce que nous croyons. Hein. On sait ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Vous avez les références en dessous et il y en a d'autres. Nous croyons aussi, quatrième vérité, le salut de Jésus-Christ qui mourut pour nos péchés, fut enseveli et ressuscita. La rédemption est acquise par son sang. Alléluia. Et ça, on le prêche. Hein. Jésus a donné sa vie sur la croix pour qu'on soit sauvés. Ça, c'est ce que nous croyons. C'est ce que nous prêchons. Voyez. On continue. Cinquième vérité fondamentale, le baptême par immersion. Ordonné à ceux qui sont passés par la repentance et qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Voilà. Ça aussi, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une option, ce n'est pas si on a envie, mais c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous prêchons, même si on force personne. Moi, je suis jamais allé voir quelqu'un en disant « Qu'est-ce que tu attends pour te faire baptiser ?» Il faut que ça vienne de la personne. Vous voyez, en 20 ans, je ne suis jamais allé voir quelqu'un pour lui dire « Alors, qu'est-ce que tu fais ? Il faudrait que tu le fasses quand même. » Parce que si la personne le fait pour vous faire plaisir, ça ne sert à rien. Hein, il faut qu'elle soit convaincue, hein, il faut qu'elle soit touchée, comme le nuque éthiopien qui a dit « Qu'est-ce qui n'empêche que je ne sois baptisé ?» Voyez ? On continue. Sixième vérité fondamentale, le baptême du Saint-Esprit dont le signe initial est le parler en langue. Vous avez les versets en dessous. Septième, la sainteté de la vie, pensée, parole, conduite, dans l'obéissance au commandement de Dieu, soyez saints. Huitième vérité, la guérison divine. Nous croyons à la guérison divine. Alléluia. Moi, je crois encore aujourd'hui que Dieu guérit les malades. Béni soit Dieu. Hein, la guérison divine, soit la délivrance de la maladie acquise par le sacrifice de Jésus-Christ au calvaire. La sainte cène, ou communion sous les deux espèces, ordonnée à tout croyant jusqu'au retour du Seigneur. La seconde venue préliminaire du Seigneur Jésus-Christ lui-même, espérance bénie placée devant tout croyant. Nous croyons que Jésus va revenir. Alléluia. Et je crois que ça, on a besoin de l'entendre, on a besoin de le dire. Jésus revient chercher son Église. Voyez, il va revenir sur les nuées du ciel, enlever ceux et celles qui lui appartiennent. Nous croyons aussi au châtiment éternel de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Même si, on ne met pas l'accent là-dessus, mais il faut le dire, ou on est sauvé ou on est perdu. Voyez. Et puis, les dons du Saint-Esprit et les différents ministères selon le Nouveau Testament, etc. Vous avez les versets en dessous. Donc tout ça, c'est ce que nous croyons. Je pense que c'est bien de les remettre sous nos yeux. Et tout ça, c'est de la doctrine. Et je voudrais insister là-dessus ce matin. Tout ça, c'est de la doctrine. C'est-à-dire que c'est des choses auxquelles on ne touche pas. Qui ne bouge pas. Après, ça c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous prêchons. On peut dire non, moi je ne suis pas d'accord, on a le droit. Mais en tout cas, dans nos églises, dans nos familles d'églises, c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous croyons, c'est notre credo, et c'est ce que nous voulons que les gens sachent. Voyez. Maintenant, sorti de la doctrine auquel on ne touche pas, qui ne bouge pas, qui ne change pas, on ne revient pas dessus, on ne l'édulcore pas, il y a tout ce qui gravite autour. Et c'est souvent tout ce qui gravite autour qui cause problème et qui crée parfois des difficultés. Le problème, c'est que souvent, ce sont toutes ces choses qui gravitent autour qu'on a parfois érigées en doctrine et qui n'en sont pas. À tel point que, par exemple, s'il y a des choses, on ne les fait pas de telle et de telle manière ou de telle et de telle façon, alors on est choqué, on est troublé parce qu'on a toujours fait comme ça. Vous voyez ? Mais ce n'est pas dans la doctrine. Vous voyez ? Je crois que c'est important de rappeler ce matin que pour établir une doctrine, on ne peut le faire que sur la base de minimum 3-4 versets, 3-4 textes. S'il n'y a qu'un passage ou deux, on ne peut pas établir une doctrine sur un ou deux passages. Il en faut au moins 3 ou 4. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Si tel n'est pas le cas, alors on tombe dans ce que j'appelle, je vais appeler ça comme ça, le registre des convictions. Et une conviction, ce n'est pas une doctrine. Et ça, je crois que c'est important de le réaliser. Une conviction, ce n'est pas une doctrine. Alors, on a la conviction par rapport à un certain sujet qu'il faut qu'on fasse comme ça. OK, pas de souci. Mais, quelque part, si j'ai la conviction, ce n'est pas obligé que mon frère ou ma sœur ait la même conviction que moi. Et je ne dois pas le forcer. Par exemple, et je vais prendre cet exemple-là parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est le plus courant et d'autant plus que j'en avais parlé il y a 2 mois. Par exemple, le foulard. Le foulard, ce n'est pas une doctrine. C'est une conviction. Bon. Ma sœur qui met le foulard, si tu le mets par conviction, fais-le. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, là où ça me pose un souci, c'est si on dit à quelqu'un, si on dit à une sœur, tu dois mettre le foulard. Là, il y a souci. Parce que le foulard, ce n'est pas une doctrine. Et ça, je crois que c'est important de le souligner. Et justement, alors je parle de ça, il y aurait d'autres domaines, mais à ce niveau-là, les pharisiens, et j'y reviens, dans le texte qu'on a lu au départ, ils étaient très forts. Regardez, dans un même texte, Marc chapitre 7, c'est le même qu'on a lu dans Matthieu 15, il y a une différence. Il y a une différence que je voudrais soulever parce qu'elle est importante. Il est dit, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Ça, c'est ce qu'on a lu hein, tout à l'heure. Mais regardez verset 4. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Et regardez, ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Il y avait beaucoup de trucs qui gravitaient autour de, autour de la loi de Moïse. Il y avait beaucoup de choses qui gravitaient, mais ce n'était pas des choses qui étaient enseignées, c'était des traditions, ils faisaient comme ça. Après tout, pourquoi pas ? Là n'était pas le problème, vous voyez ? Mais le problème, c'est qu'ils voulaient l'imposer, vous voyez ? Et c'est ça que Jésus reproche. Et là où je veux en venir, c'est à ceci, c'est ainsi que parfois dans nos églises, je ne veux pas parler des autres, hein, on va pas parler des autres, on va parler de nous. Dans nos églises, on retrouve parfois ce genre de choses. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément mauvais. Pourquoi pas ? On peut le faire. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'obligatoire. À tel point que si on ne fait pas comme ça, ça ne va pas. Voyez ? Et pour essayer d'être concret, je vais vous citer tout un tas de choses. Je pense que c'est bien de les formuler, de mettre les doigts sur ces choses. Parce que parfois, inconsciemment, il y a des choses qu'on a intégrées, qu'on a reçues parce qu'on nous l'a dit, parce que peut-être même on nous l'a enseigné comme ça. Et le problème, c'est qu'on ne fait plus la différence entre ce qui est de la doctrine, qui, elle, ne change pas, et ce qui est du reste, où là, quelque part, c'est différent. Alors, je vais vous citer certaines choses. Hein. J'ai bien conscience que je vais toucher à certaines choses, mais je pense que c'est important. Hein. Par exemple, première chose qui m'est venue tout de suite à l'esprit, hein, parce que j'ai tellement vu ça dans beaucoup d'églises, par exemple, lire un passage ou lire un texte pour la Sainte Cène. Il n'y a rien de mauvais. Dans certaines églises, ça se fait. Dans d'autres, ça ne se fait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit qu'il faut le faire. Il n'y en a aucun qui dit qu'il faut le faire. Alors, après, dans certaines églises où j'ai travaillé, ça se faisait. Moi, ça ne me gêne pas. Je crois quelque part que ça m'est arrivé d'arriver dans des églises où ça se faisait. Parfois, il n'y a pas de problème avec ça. Voyez ? Là où ça me gêne, c'est quand quelque part, peut-être pour X raison, un dimanche, il n'y a pas. Et là, tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué, comment ça se fait ? Il n'y a pas eu le passage pour la Sainte-Cène. Mais ça, ce n'est pas de la doctrine. Hein. Ce n'est pas de la doctrine, ça. C'est une façon de fonctionner qui, ma foi, pourquoi pas ? Moi, ça ne me gêne pas. hein, de rappeler. Hein, d'ailleurs, souvent, on prend ce texte, car j'ai reçu du Seigneur, l'apôtre Paul en Corinthiens 11, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que dans la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain, etc. Ce texte qui est une parole de l'apôtre Paul. Hein, on prend souvent ces textes, mais si un dimanche, il n'y a pas. D'ailleurs, vous avez remarqué, depuis que je suis là, ce n'est pas systématique. Quand j'ai à cœur de lire un texte, je le fais. Ça pourrait m'arriver d'aller voir un frère et de dire, écoute, dimanche, tu peux lire un texte pour la Sainte-Seine, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une loi, ça. Ce n'est pas de la doctrine, ça. Voyez, je me souviens, dans une église où nous avons travaillé, c'était le fonctionnement, c'était comme ça. Et systématiquement, tous les dimanches, il y avait un frère qui était désigné pour lire un texte pour la Sainte-Seine. Pourquoi pas ? Ça, franchement, pourquoi pas ? Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il y avait de ces textes. Les frères lisaient de ces textes. Alors, bien entendu, on a collé, je vais vous citer un exemple, on a collé toujours le fameux texte d'un Corinthiens 11, que j'ai cité tout à l'heure, ou de Matthieu 26, quand Jésus a établi le repas du Seigneur. Mais avant, ces frères lisaient des textes, des fois, vous demandiez le rapport avec la Sainte-Seine. Je me souviens d'un dimanche matin, d'un brave frère qui nous a lu à la Sainte-Seine tout le passage de 1 Samuel 17, David et Goliath. Plus de 50 versets. Il a lu jusqu'au bout. Hein. Il a lu les 52 ou 53 versets. Il les a lus. Et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que ça rapporte ? Et puis après, avec ça, il a accolé le texte de 1 Corinthiens 11. Il a fermé sa Bible et il est parti s'asseoir. À partir de là, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez, ça fait une chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais ce n'est pas de la doctrine, ça. Vous voyez ? Ce n'est pas de la doctrine. Autre chose, la façon de faire une réunion. Et là aussi, ça crée parfois des difficultés. Il n'est nulle part écrit dans la Bible comment on doit faire une réunion. Vous pouvez chercher, vous n'allez pas trouver. Hein, c'est vrai qu'on a des façons de faire des réunions. Hier, à la jeunesse, on a changé. Mais on ne va pas changer pour changer, c'est parce que ça rentrait dans le cadre de ce qu'on voulait apporter. Hier soir, à la jeunesse, il n'y a pas eu de chant. On a commencé direct dans le vif du sujet. Je n'ai pas eu l'impression que les jeunes vous avaient été choqués, non ? Non ? Vous n'êtes pas traumatisés ce matin, ça va ? Non ? Bon, ça va. Mais c'est vrai que souvent, dans notre mode de fonctionnement, alors on fait 4 chants, ou 5, ou 3, qu'importe. Et puis après, il y a la prière. Et puis, il ne faut surtout pas mélanger la prière au chant. Et puis après, vous avez... Si à la Sainte-Seine, si c'est le dimanche, vous avez la Sainte-Seine. Après, vous avez la parole. Après, vous avez le chant de fin. Et on a l'habitude de fonctionner comme ça. Mais ça, nous, on fonctionne comme ça. Mais je veux dire, il n'y a rien qui indique dans la parole qu'il faut fonctionner comme ça, de cette façon-là. Et si un jour, on a envie de changer. D'ailleurs, ça m'arrive parfois par rapport au sujet d'inverser, de prêcher avant la Sainte-Seine et on fait la Sainte-Seine après. J'ai pas vu le Saint-Esprit attristé parce qu'on a changé, tout d'un coup on a interverti, vous voyez, mais je dis ça parce que parfois c'est des choses que des fois on dit, oh, mais pourquoi on fait comme ça, pourquoi ça change, mais on tombe dans la même chose qu'on a eu au départ, vous voyez, les religieux qui étaient là et qui avaient leur façon de faire, alors il fallait surtout pas bouger, surtout pas changer, sauf que c'était pas de la doctrine, vous voyez. Des fois, vous voyez, au niveau de la façon de faire une réunion, on a établi des choses et puis il ne faut surtout pas bouger la réunion. Si vous rajoutez un chant ou si vous en enlevez un, ou si jamais... Vous voyez, dimanche prochain, le format de la journée va changer. Hein. Il y aura la chorale qui sera là. Donc forcément, que ce soit le matin ou l'après-midi, la façon de faire la réunion changera. Et bien, alléluia. Gloire à Dieu. L'important, c'est que le message y passe. L'important, c'est que la parole soit prêchée. Voyez, un autre domaine, fut un temps, peut-être ce temps-là vous l'avez connu certains, la batterie était considérée comme un instrument diabolique dans les églises. Ah oui, vous n'avez pas connu ce temps-là ? Ah ben, je peux vous dire que oui. Fut un temps, voyez. Alors, après, je ne rentre pas dans le débat, on aime, on n'aime pas la batterie. Ça, c'est une affaire de goût, ça, c'est autre chose. Mais ça, je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais à un moment donné, la batterie dans les églises, c'était le monde qui rentrait dans l'église. Sauf que quand même, quand je regarde, ne serait-ce que dans le livre des psaumes, vous avez les cymbales retentissantes. On n'en a pas encore ici, hein, un petit peu là. les cymbales retentissantes que moi j'appelle être un peu l'ancêtre de la batterie. Vous voyez, ça devait faire du bruit quand même, hein, les cymbales retentissantes dans les psaumes. Voyez un petit peu toutes les idées qui peuvent passer, qu'on peut avoir des fois. Mais ça, tout ça, c'est pas de la doctrine. Vous voyez, c'est des choses qui gravitent autour. On continue. Je vais encore un peu plus loin. Tout ce qui touche, et là je sais que tout ce qui touche à l'artistique.
Ah,
aïe aïe aïe. Alors là, vous avez les pour et vous avez les contre. Alors, personnellement, là je vous parle de moi, j'ai pas l'âme d'un artiste, moi. J'ai pas l'âme d'un artiste. Vous voyez, je suis pas trop, c'est pas trop, vous voyez. Mais je dois quand même avouer, sans problème d'ailleurs, qu'avec le temps, ça fait quand même, avec Rosetta, on est quand même dans notre 20e année, avec le temps, il y a des choses où j'ai évolué. J'avais des idées bien arrêtées, et puis avec le temps, parce que j'ai vu certaines choses, j'ai vu certains spectacles, certaines choses, je peux vous assurer, le message y passe. Le message y passe. Et n'est-ce pas ce que nous voulons, que le message y passe? Vous savez, des fois, il y a des versets qu'on cite, mais quand la Bible dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre », nous, on essaye de le faire parler par une seule manière. Mais vous êtes d'accord avec ce verset? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a mille et une façons de nous parler. Hein. Je me souviens, c'est pas si longtemps que ça, sur Ajaccio, il y avait un groupe de théâtre. Ben, je peux vous garantir que c'était super. Moi, je ne suis pas très théâtre, hein. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas faire ça. Mais il y avait un groupe de théâtre et de temps en temps, ils intervenaient le dimanche après-midi. Hein, je me souviens, une fois, ils avaient fait quelque chose là, toute une pièce sur les femmes de la Bible. Alors, vous aviez la Samaritaine, vous en avez plusieurs là. Hein, et croyez-moi, le message y passait. Et celui qui voulait comprendre, il comprenait. Après, celui qui ne veut pas comprendre, il ne comprend pas. Celui qui n'en veut pas, il n'en veut pas. Mais le message y passait, vous voyez. Le message y passait. Et franchement, c'était waouh, c'était... Ça interpellait, vous voyez. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu es bien gentil, mais tout ça, c'est pas biblique. Mais là aussi, je voudrais quand même vous faire toucher du doigt certaines choses. Par exemple, est-ce que Betsaléel, ça vous dit quelque chose? Betsaléel, c'est un qui a construit le tabernacle dans l'Ancien Testament. Regardez, dans Exode 31, ça remonte loin, ça. Hein, regardez, l'Éternel parla à Moïse et dit. Et regardez, l'Éternel parla à Moïse et dit. C'est Dieu qui parle, c'est pas Moïse. Vous voyez, ce n'est pas l'idée de Moïse. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et notez bien, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pourquoi faire. Pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable, notez bien, c'est Dieu qui dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. De travailler l'or, l'argent et les reins. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Et les inventions, ça nous parle de créativité. Mais ce n'est pas étonnant quand on y réfléchit. Dieu est un Dieu créateur. Dieu est un Dieu créateur. Donc ce n'est pas étonnant que Dieu, à un moment donné, à cet homme, à Betsaléel, Dieu lui a donné la capacité de créer certaines choses. Et ça venait de Dieu. Je l'ai rendu capable. Vous voyez, hein. Prenez un autre exemple. Et là, j'ai encore relu ce matin, hein, dans mon bureau, là-haut, j'ai encore relu ça ce matin. Parce que c'est des choses sur lesquelles, des fois, on ne fait pas attention. Souvent, on ne fait pas attention. Ézéchiel, vous lisez beaucoup Ézéchiel? Ouf! Vous avez raison. Ouf! Ézéchiel. Ouh là là! Ézéchiel, si vous voulez vous rafraîchir un petit peu la mémoire, Ézéchiel, à un moment donné, Dieu lui a enlevé la parole. Tu vas être muet. Bon. Ouais. C'est au chapitre 3. D'Ézéchiel. Et puis Dieu va lui rendre la parole, chapitre 33. Entre, vous avez 30 chapitres. Et relisez le livre d'Ézéchiel. Relisez, par exemple, je lisais ce matin Ézéchiel 12. On va pas... Allez, je vais vous le lire. Parce que je crois que c'est des choses, des fois, qu'on n'aborde pas. Et regardez, Ézéchiel 12, par exemple, parmi tant d'autres. Hein. Mais donc, remettez-vous dans le contexte. Il ne parle plus. Dieu lui a enlevé volontairement la parole. Et il est dit ceci, Ézéchiel 12, verset 1er, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être vous verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux, et toi, pars le soir en leur présence comme partent des exilés. Sous leurs yeux, écoutez bien verset 5, sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Vous savez comment ça s'appelle ça, aujourd'hui ? Ça s'appelle un mime. Ça s'appelle un mime, ça. Il ne pouvait pas parler. Dieu lui dit, tu vas faire ça. Ça s'appelle un mime. Ézéchiel a mimé. Et le peuple était là, il le regardait. Et ça, ce que je viens de vous lire, c'est un exemple. Vous avez d'autres textes. On ne va pas le lire ce matin, je ne veux pas être trop long. Mais Dieu l'a fait parler, Dieu a interpellé son peuple à ce moment-là, une famille de rebelles, par un mime. Il leur a parlé d'une manière orale, ils n'écoutaient pas. Alors là, il parle par un mime. Vous voyez ? Moi, j'ai le souvenir de certains, notamment c'était fait par des jeunes, de sketch et de mime. Croyez-moi, ça parle. Hein, sur l'éternité, trop tard, trop jeune, trop vieux. Je sais pas si ça a déjà été. Voyez, trop vieux, trop jeune, trop ceci, trop cela, trop occupé, trop. Quand vous regardez ça, effectivement, vous dites ouais, c'est vrai. Vous voyez. Alors, bien sûr, comprenons-nous bien. Il ne s'agit pas de faire ça tous les dimanches et toutes les réunions. C'est une histoire d'équilibre. On est tous d'accord avec ça. Une histoire d'équilibre. Mais c'est pour vous montrer que parfois, combien de fois j'ai dit, ça, c'est pas biblique. Ben, ma foi, vous avez quand même là des exemples. Mais vous voyez, il y a des choses, on a érigé en doctrine. Vous voyez. Alors, un autre domaine, là aussi. Là, je vais citer un exemple qu'on a vécu avec Rosetta. Par exemple, les décors dans l'église. Aïe, que d'histoire avec ça, les décors dans l'église. Alors bien sûr, là aussi, tout est question d'équilibre. On ne va pas faire n'importe quoi, partir dans tous les sens. Et évidemment, on est tous d'accord. Hein. Mais je pense à ce passage dans Agé, livre du prophète Agé, où Dieu fait quand même un reproche à son peuple. Hein, et le reproche d'habiter des demeures lambrissées, alors que la maison était détruite. Voyez. Quand on y réfléchit, il y a des choses. Voyez. Moi, je me souviens d'une église où on est arrivé avec Rosetta. Et béni soit Dieu, parce qu'aujourd'hui, les choses, waouh, elles ont super évolué. On est arrivé dans une église une fois où il y avait eu des difficultés. Et la première fois qu'on a mis les pieds dans l'église, la convention nous a demandé d'aller nous occuper de cette église, de prendre soin de cette église. On est rentré là-dedans. Il y avait une odeur. Je vais le dire comme ça. Ça sentait le vieux. Une moquette pourrie, mais pourrie. Et alors, le truc, c'est des rideaux, ils tenaient debout tout seuls. Tellement ils étaient vieux comme. Mais je vous assure, on avait honte, quoi. Vous voulez accueillir des gens là comme ça, là-dedans, dans un truc comme ça ? Vous voyez ? Vous voyez, je suis convaincu que sa propre maison s'en occupe quand même un peu mieux. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, cette église, elle a bien grandi. Ça s'est agrandi. Vous voyez, béni soit Dieu, il y a des âmes sauvées, etc. Mais vous voyez, il y a des choses, des fois. Un autre domaine. Là aussi, c'est des choses qu'on a vécues. Des choses qui, vous voyez, c'est pas de la doctrine. Alors après, on n'aime pas. Mais ça, c'est une histoire de goût. Faut pas taper dans les mains. Moi, je me souviens d'une réunion de jeunesse quand on était à l'école biblique. Un jour, on est parti dans une région, je ne dirais pas le nom de l'église. On est parti, tout un groupe de l'école biblique, et puis on arrive pour une grande réunion de jeunesse inter-église. Et puis, premier chant, je ne sais plus lequel c'était, un chant un peu joyeux. Et puis, nous, les étudiants de l'école biblique, on était 20-25, là. Un chant entraînant, on se lève, et puis... puis on commence à taper dans les mains, alléluia, gloire à Dieu. Et puis on se rend compte qu'autour de nous, tous les jeunes, il n'y en a aucun qui se lève. Là, on s'est dit, là, il y a un souci, il y a un malaise. Ah oui, le malaise, ouais, parce que dès que le chant a été fini, Le pasteur de l'église s'est levé, il est venu au micro, et là, il a pris le micro, et je le revois encore, et que Dieu le bénisse, ce frère. Dire, vous êtes prié de ne pas vous servir de vos instruments à 10 doigts. Bon, d'accord, on s'est rassis, on ne s'est plus servi de nos instruments à 10 doigts, mais j'aime autant vous dire que la réunion de jeunesse, elle a été flambée, c'était terminé après. Voilà, pff, c'était flambé, parce que c'est demandé où on était tombé, quoi, vous voyez. Personnellement, je l'ai déjà dit, la première fois que je suis rentré dans une église comme celle-ci, c'était à Montpellier, ce qui m'a touché, ce n'est pas la parole. Je n'ai pas entendu, je ne me souviens plus ce qu'il a prêché. Ce qui m'a touché, c'est de voir la joie des gens. Ce qui m'a touché, c'est de voir, pas l'ambiance, mais de voir des gens qui étaient là et qui étaient heureux d'être là. Et je me souviens, le premier chant que j'ai entendu, et ça, je ne l'ai jamais oublié, c'était « Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. » Un vieux chant, vous voyez, hein. Et les gens, ils le chantaient avec entrain, ils tapaient dans les mains. Moi, je suis rentré, moi, j'avais l'habitude de l'église traditionnelle, vous voyez, où il ne faut pas bouger, il faut... Vous voyez. Et là, je suis rentré, je dis « Mais où je suis dans une église, là ?» Et ça m'a touché. J'ai dit, mais moi, ils sont convaincus, là, ce qu'ils chantent. Et ça a été la première chose, le premier pas qui a fait que l'œuvre de Dieu a commencé. Alors après on aime taper dans les mains, on n'aime pas taper dans les mains. Ça, c'est encore une affaire de goût. Mais voyez, des choses, des fois, qu'on a érigées en doctrine, alors que ça n'a pas à voir de la doctrine. Allez, un dernier exemple, parce que je pourrais aller loin comme ça, mais la tenue vestimentaire. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Alors, on pourrait éviter d'en parler, au moins on serait tranquille. Mais j'ai connu l'époque. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont connu. J'ai connu l'époque où, et je l'ai entendu prêcher du haut de l'estrade, hein, où les femmes ne devaient pas porter le pantalon. Ah oui, moi, je l'ai entendu prêcher du haut de l'estrade. Hein. Je l'ai entendu, il y avait Rosetta, hein, les femmes ne devaient pas porter de pantalon. Ah oui, oui. Alors, bon. Alors, il y a tout un tas de textes là-dessus. Il y a tout un tas de textes. Par exemple, regardez, j'en prends 1 Timothée 2, verset 9. Juste ce texte, 1 Timothée 2, verset 9. « Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Moi, je dis amen à ça. Mais ce n'est pas un texte qui est en train de nous dire, là, que, quelque part, les dames qui s'habillent ne doivent pas avoir un peu de goût, qu'elles doivent ressembler à des amiches. Ce n'est pas ça qui est dit là. Et il n'est pas non plus dit qu'elles ne doivent jamais porter de bijoux. Bien sûr, là encore une fois, tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre. Et c'est évident que, excusez-moi, si la brave dame est un pot de peinture, hein, c'est bon. Vous voyez, si on ne la voit plus tellement, il y a des bijoux de partout, on est tous d'accord. Mais entre cette extrémité et une autre extrémité, vous voyez, c'est une question de, voilà, d'équilibre. Voyez, mais des fois, on a érigé des choses, voilà, comme ça, et on fait dire des fois à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Voyez. Alors, le but de tout ça, c'est quoi? Le but de tout ça, c'est pas de créer des polémiques, c'est de nous faire réfléchir. C'est de nous faire réfléchir, le but de tout ça. Et simplement de nous poser cette question, est-ce que Dieu peut me dire, et je ne parle pas de doctrine, là, je ne parle pas de doctrine. La doctrine, on ne la change pas, on ne la touche pas. Mais est-ce que Dieu peut me dire, jusqu'à aujourd'hui, tu as fonctionné comme ça, tu as agi comme ça dans ce domaine, je voudrais que tu agisses différemment. Est-ce que Dieu peut me le dire ou pas? C'est important de se poser la question. Ou est-ce que quelque part, je vais dire à Dieu, moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours pensé comme ça, et ça restera comme ça. Si on est comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais est-ce que Dieu peut le faire? Et là, je pense à un exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais... là, c'est dans un domaine bien particulier, mais c'est le principe qui est important. C'est le principe qui est important. Est-ce que Dieu peut me bousculer? Est-ce que Dieu peut me bousculer? Et là, je pense à Pierre. Rappelez la vision de la nappe. Alors, le maître, je vais finir par là. Et je vais vous raconter une petite histoire à la fin. L'histoire de la nappe, c'est « Il vit le ciel ouvert ». Vous connaissez, acte 10. Hein, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Vous rendez compte pour un juif? Lève-toi Pierre, tue et mange. Mettez-vous à la place de Pierre. C'est un juif qui a été habitué à la loi de Moïse avec les animaux purs, impurs, ce qui doit manger, ce qui ne doit pas manger. Lève-toi Pierre, tue et mange. Regardez Pierre, un bon juif, mais Pierre dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé, ni de souillé, ni d'impur. Il a raison. Est-ce que c'est un test ou pas? Regardez. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Regardez, verset 16, cela arriva jusqu'à trois fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Il a fallu que Dieu insiste quand même, hein, trois fois. Ah non, non, moi, j'ai toujours fait comme ça, moi je suis un vrai juif, etc., élevé dans la loi de Moïse. Et il le fait sincèrement, hein. Je ne doute pas de sa sincérité. Mais là, Dieu le bouscule et veut l'amener un petit peu plus loin. Il veut l'amener un petit peu plus loin. Et justement, un petit peu plus loin, j'aime beaucoup ce texte. On ne va pas tout lire. Acte 10, verset 28. Il va s'adresser à la maison de Corneille. Il va dire, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu m'a appris. Dieu a pu l'amener un peu plus loin. Parce que, bon, là, dans le contexte, si Pierre avait dit non, moi, je ne bouge pas, je ne change pas, rien du tout, savez ce que Dieu aurait fait? Il aurait été prendre quelqu'un d'autre et il serait passé à côté. Et quelque part, là, vous allez me dire oui, mais là, ça touche à un domaine, je suis d'accord avec vous. Ça touche à l'évangélisation des païens, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui m'intéresse, c'est le principe. Je voudrais pas que pour des choses qui sont secondaires, qui ne sont pas de la doctrine, parfois, on attriste le Saint-Esprit. Et je crois que ça, c'est important. Alors, je vais vous raconter ma petite histoire, et je finirai par là. Et que Dieu nous aide à être souple et malléable entre ses mains. C'est l'histoire des ailes du poulet. Vous la connaissez? Je ne suis pas un bon raconteur. Alors, excusez-moi. Comme quoi, être un conteur, c'est un métier. Hein. Vous voyez, hein. L'histoire des ailes du poulet. Je vous la cite parce que j'ai entendu des frères, des collègues la citer, mais c'est tellement intéressant et ça fait tellement réfléchir. C'est dans une famille, il y a la maman et il y a la petite fille. Et la maman dans cette famille, elle avait l'habitude de faire cuire son poulet d'une certaine façon. C'est-à-dire que elle coupait les deux ailes du poulet, elle les mettait sur le poulet. Et elle faisait cuire le poulet comme ça. Voilà, elle faisait cuire le poulet comme ça. Et ce jour-là, la petite fille dit à sa maman, « Maman, pourquoi tu fais cuire les ailes du poulet comme ça? Pourquoi tu coupes les ailes du poulet et tu les mets dessus ?» Et la maman répond à sa petite fille, « Bah écoute, ta grand-mère faisait comme ça. » Ok. Bon. La petite fille, elle est... Vous voyez, elle réfléchit. La fois d'après, voilà la grand-mère. Alors, voilà la grand-mère. Mamie, pourquoi maman m'a dit que tu faisais cuire les ailes du poulet en coupant les ailes et tu les mettais dessus? Oui, je fais comme ça. Mais pourquoi tu fais comme ça? Et la grand-mère de répondre, eh bien parce que ton arrière-grand-mère, quand elle faisait cuire les ailes du poulet, eh bien elle faisait comme ça. Bon. Il se trouve que l'arrière-grand-mère était encore en vie. Donc, la petite fille, elle n'est pas bête, elle va trouver l'arrière-grand-mère. Et l'arrière-grand-mère lui dit, je vais t'expliquer. À l'époque de l'arrière-grand-mère, le four était petit. Et donc, le poulet ne rentrait pas. Et donc, pour cuire le poulet, il fallait couper les ailes et les mettre dessus. Parce que c'était le seul moyen. Sauf que ce qui était lié à un contexte est devenu une tradition. On avait toujours fait comme ça et personne ne réfléchissait. Et donc, quand c'est arrivé à la 3e ou 4e génération, pourquoi tu fais comme ça? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais il y avait une raison. Il y avait une raison, comprenez? Et alors, cette petite histoire, elle est marrante, elle nous fait sourire. Moi, elle m'a fait sourire, vous voyez. Mais elle est là pour nous interpeller et dire, Seigneur, ce que je veux faire, c'est ta volonté. Après le reste, tout ce qui est la doctrine, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les vérités fondamentales, tout ça, on ne touche pas. Ça, c'est immuable, ça ne change pas, ça ne bouge pas. C'est ce que nous croyons. Après tout ce qu'il y a autour, après, Seigneur, moi, ceux qui veulent faire d'une façon, pas de souci, ceux qui font d'une autre, pas de souci. Mais Seigneur, je veux pas être un pharisien. Et quelque part, t'empêcher d'agir. Et ma prière, c'est Seigneur, aide-nous à être souples et malléables entre tes mains. C'est ça le but. Le but, c'est pas de dire, Seigneur, bon, s'il y a des choses, effectivement, bon, c'est pas si important que ça, c'est secondaire, mais ce qui est secondaire, je veux pas que ça prenne la place sur ce qui est le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Après tout le reste, c'est secondaire. Et ma prière, c'est que Dieu nous aide à être souple et malléable entre les mains. Parce que souvent, après, l'ennemi de notre âme se sert de ça pour créer des difficultés, créer des divisions, créer des dissensions. Et c'est dommage. Et moi, je veux pas être quelque part, inconsciemment bien sûr, parce que souvent c'est on veut bien faire, mais je ne veux pas être, un instrument qui va servir plus à la discorde qu'à la bénédiction. Alors que Dieu nous aide. Seigneur, je veux être souple et malléable entre tes mains. Seigneur, merci pour ta parole. Ces choses simples que tu nous remets devant les yeux ce matin. Et je te demande vraiment de nous aider, en tout cas pour moi, Seigneur, je te demande vraiment de m'aider à être souple et malléable entre tes mains. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Et combien